L'expérience commence. Quelque chose a eu lieu ici, mais quand elle était enfant, Myriam Rabat-Konaté n'en savait rien. Elle traversait la cité de la Muette, cet ensemble de bâtiments qui forme un U à Drancy, en Seine-Saint-Denis. C'est là qu'elle a été à l'école, qu'elle a inscrit son enfance et ses amitiés. Mais c'est seulement en quittant Drancy adolescente qu'elle découvre l'histoire de ce lieu, qu'elle apprend que plusieurs dizaines de milliers de personnes juives vivant en France y ont été internées, que c'était un camp de transit et l'un des principaux lieux de la déportation en France. Le passé de la Muette qui entre dans sa vie suscite de nouvelles rencontres et nous pose à nouveau la question de l'expérience de la transmission, puisqu'à un moment donné, les enfants voudront savoir. Écoutez la Muette, c'est une expérience de Myriam Rabat-Konaté, réalisée par David Jakubowiez.
Le choix de laisser la Muette habiter est étrange et gênant, même s'il s'explique de plusieurs manières. Volonté de tourner la page, mais gêne à détruire ce lieu de mémoire, preuve et témoin des crimes. Volonté de ne pas devoir entretenir vide ces immeubles maudits, et surtout de ne pas stigmatiser encore plus la banlieue.
Pourtant, faire connaître davantage ce lieu stigmatiserait surtout l'administration, la gendarmerie et le gouvernement français de cette époque. Attesterait leur capacité à avoir été monstrueux. Là, au milieu des tours d'habitation les plus pauvres de l'Île-de-France, dont les habitants sont presque exclusivement issus des minorités dites visibles, minorités noires et arabo-berbères, se trouve la cité du crime de l'État français. Et personne ne sait à quoi elle ressemble.
C'était ça l'entrée. Moi j'arrivais par là pour aller à l'école. Et je courais là pour pas être en.
Écoutez la Muette. Un documentaire de Myriam Rabat-Konaté, réalisé par David Jakubowiez. Découvrir l'histoire de la Muette. Cette cité de Drancy où se trouvent mes chemins d'enfant, mon école, mon gymnase, mon jardin, a été troublant pour moi. D'abord, car je ne l'ai découverte que plusieurs années après l'avoir fréquentée chaque jour. Ensuite, car Drancy a longtemps été une origine géographique simple, bien plus claire que mes origines familiales éparpillées. Si j'y reviens aujourd'hui, c'est pour entendre ce que ce lieu a encore à me raconter. En lisant le livre « Tu ressembles à une juive » de Chloé Corman, en 2019, j'ai trouvé dans ces mots que nous partagions une même stupeur quant à l'ambiguïté de ce lieu. Pour Chloé aussi, découvrir le passé de cette cité a été déroutant.
Il faudrait raconter, en fait, comment j'ai découvert la cité de la Muette. Et le fait même que je l'ai découverte, que j'ai pris connaissance de ce lieu et que ça ait mis fin à mon ignorance, c'est en soi un événement, un problème. Jusqu'aux années 2010, je savais pas, je connaissais même pas ce nom de lieu, la cité de la Muette. Je connaissais le nom Drancy, qui est en fait une sorte de flou, une sorte de périphrase, périmot, pour l'endroit d'où on a déporté les Juifs depuis la France. Quand j'entendais Drancy, j'imaginais, en fait, les rails, les convois. Je voyais les baraquements des camps d'extermination. Je voyais Auschwitz. Mais en fait, je ne savais pas du tout que plus de 70 000 Juifs qui allaient être déportés depuis la France avaient en fait été mis dans un endroit, la première cité HLM historique, du nom de la cité de la Muette. Je ne savais pas. Et il y a quelque chose de un peu sidérant, quoi. Parce que moi, je suis issue d'une famille où il y a eu beaucoup d'enfants cachés, de personnes déportées, de personnes qui se sont exilées pour éviter ce destin-là. Mais j'avais pas d'image pour ce lieu. C'est voilà. Alors, comment je le découvre ? Ça passe complètement par mon lien à la Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui, parce que en 2010, j'ai commencé un roman qui est ensuite est devenu Les Saisons de Louve Pleine, où j'ai voulu raconter dans une ville fictive de Seine-Saint-Denis des émeutes. Et je voulais repenser aux émeutes de 2005, à la mort de Ziad Ebouna. Et c'est par ce chemin, vraiment, que... et je pense, en vous disant ça, à comment on rentre dans le U de la cité. Parce que moi, la première fois que je suis rentrée par hasard, et c'était par hasard dans la cité de la Muette, ça faisait partie de l'enquête, de l'histoire de ce roman, où j'ai passé des jours à arpenter des cités. Et donc un jour, je passe un porche et j'entre. Et je me dis, mais qu'est-ce, c'est, où suis-je ? Mais vraiment, c'est comme deux couloirs du temps qui se rencontrent ou deux espaces qu'on n'avait pas du tout raccordés. Et là, j'ai senti un certain malaise, parce que j'ai compris que le lieu était habité. Sur le coup, c'était un vertige.
Pour enquêter sur la cité de la Muette telle que je la connais, il fallait revenir là où tout a commencé, dans mon école primaire.
Attendez-vous, merci.
Ça y est, c'est bon.
Alors dites-moi, les enfants, est-ce que certains d'entre vous, lorsqu'ils viennent à l'école, alors passent à travers la cité ? Oui. D'accord. Vous faites le tour ? Ou vous passez dans le petit passage qui est au bout. Vous prenez le. Et est-ce qu'il y en a qui, parfois, de temps en temps, se promènent vers le wagon ? D'accord. Est-ce que vous avez lu ce qu'il est écrit, par exemple, sur le wagon ? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il y a écrit sur le wagon ? C'est vrai que lorsque je me promène, lorsque je lis, lorsque je parle, il y a souvent Drancy qui est là-dedans et qui reste. Et j'essaie de savoir pourquoi, comment.
En venant à la Muette, en cherchant à comprendre comment son histoire est transmise, on m'a beaucoup parlé d'un certain Jean-Marc qu'il fallait absolument que je rencontre. Quand j'ai fini par trouver son profil Facebook, je lui ai tout de suite envoyé un message.
Entre guillemets, lorsqu'on m'écrit, je réponds tout le temps. En plus, lorsqu'on m'écrit pour me parler de ce sujet, c'est encore plus rapide.
Depuis qu'on s'est rencontrés, il me partage des articles, des photos et tout plein d'informations sur ce lieu. Jean-Marc a été professeur dans mon école dans les années 70. C'est là qu'il a débuté sa carrière.
J'ai adoré, et j'adore toujours, avoir été et être enseignant, ce que je suis encore aujourd'hui, bénévolement.
D'une certaine manière, pour lui aussi, sa découverte de la Muette a été déconcertante.
J'ai un peu de peine à savoir que
comme toi, tu m'as dit, t'as vu une photo, puis t'as dit « Ah, mais c'est l'école, c'est où j'étais à l'école ». Ben moi, c'est pareil, à savoir que pendant ces 4 années, j'avais le camp de Drancy en face de moi et je ne savais pas. Et à l'époque, les années 70, visiblement, on ne savait pas. Et en fait, quand je m'y suis vraiment intéressé, c'est à la retraite. Quand j'ai découvert, ben, je me suis dit, mais enfin, j'étais instit là en face, et je ne savais pas. Et donc, ma réaction, ça a été de me dire, mais t'es bête ou quoi? Toi qui adores l'histoire, pourquoi est-ce que tu ne sais pas ça?
Enfin, du coup, d'avoir découvert cette histoire-là, d'être aujourd'hui encore très investi, qu'est-ce que ce lieu y représente pour toi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu y es quasiment toutes les semaines, très souvent.
Ah, c'est un lieu. Toutes les semaines, c'est évident.
Que tu fréquentes.
Je croyais que tu allais dire tous les jours, non.
Quasiment, parfois.
Mais je ne peux pas. Ceci dit, j'y passe pratiquement tous les jours. Je passe devant tous les jours. Mais au bout d'un moment, est-ce que ça ne devient pas, entre guillemets, banal? Je pense que beaucoup de gens qui habitent ce lieu, ben pour eux, j'ai un logement et il faut que je vive.
Et comment, puisque tu es dans la transmission permanente, comment tu racontes cette histoire aux enfants?
Ben, comment est-ce que je fais? Je leur raconte une histoire. Alors, les élèves de 3e, quand j'étais au collège, ça va, ça passe bien. Les CM, c'est moins évident, mais ils comprennent.
Alors, on va laisser Myriam parler un peu. Myriam, elle a beaucoup de questions à vous poser, non?
Oui, beaucoup.
Alors, vas-y.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me remets un peu à votre place. Donc, vous avez quel âge? Vous avez 10 ans? 10, 9 ans. 9 ans? 9 ans. 9 ans, 10 ans. Quand moi, j'avais 9 ans, je venais tous les jours à l'école ici, dans cette même école. Et je ne savais pas ce qui s'était passé ici. Alors que j'aimais beaucoup l'histoire et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne m'ait pas raconté l'histoire comme le fait M. Assayag avec vous aujourd'hui? Et c'est parce que, bah, comme vous, parfois, je n'avais pas lu ce qui est inscrit sur le wagon, ce qui est inscrit parfois sur certaines plaques. Et du coup, je me demande, vous, qui avez 9 ans, qui pouvez découvrir cette histoire aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous permet de voir et de comprendre de cet endroit, parce qu'on habite tout près, on y vient tous les jours, et c'est une histoire qui est compliquée, qui peut être choquante. Du coup, moi, je me demande vraiment qu'est-ce que ça vous permet de comprendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut me dire un peu sa réaction ou ce que ça fait de découvrir cette histoire. S'il y avait une main là-bas, oui.
Bah, moi, avant, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements à Drancy, mais là, je viens d'apprendre qu'il s'est passé beaucoup de choses à Drancy.
Pour le coup, c'est choquant parce qu'on y venait tous les jours. Avant, par exemple, quand on est en CE2 ou en CE1, on ne savait pas forcément. Et parfois, par exemple, la dernière fois, avec plusieurs élèves de cette classe, on était partis dans le wagon pour essayer de voir. Et même moi, j'avais fait quelques recherches et j'ai vu que vraiment, c'est une ville... vraiment qui a vécu beaucoup de choses et qu'on n'aurait pas vraiment pu... Tout seul, on n'aurait pas vraiment pu savoir concrètement ce qui s'est passé.
Mais quand tu dis que tu as fait des recherches, tu as fait des recherches sur Internet, à la médiathèque ou...
Oui. Au début, j'avais regardé sur YouTube, j'avais vu qu'il y avait le maire qui était venu. Il y avait aussi un film qu'ils avaient fait sur Drancy et ils montraient, en 2017, ils montraient les habitants... de la cité, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur cité, du coup?
Ouais.
Sur ce qui s'était passé.
Sacrée chercheuse. Oui.
Est-ce que toi, t'as visité la cité muette?
Tu dis la cité muette, c'est marrant que tu dis ça. Bah, moi, quand j'étais petite, je venais tous les jours à l'école. Donc, au début, je venais avec mon papa. Puis ensuite, vers CE2, CM1, je venais toute seule. et moi je traversais la cité de la muette. En fait, je venais tellement tous les jours que pour moi c'était l'endroit, je vais vous dire, je vais vous révéler un truc. La première fois que j'ai eu le droit de faire du vélo toute seule, c'était à la cité de la muette, parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc je ne l'ai pas vraiment visité, c'était un lieu que je connaissais bien, quoi.
En fait, quand on dit un crime a lieu, quelque chose a lieu, il y a des murs qui sont témoins, qui ont... voilà. Et donc, le principe même de la déportation, c'est de supprimer la vision de l'exécution, de la mettre, de la placer très loin du lieu d'origine, de vie des personnes. Après, c'est aussi un lieu que j'ai fréquenté comme enseignante. Et je pense que c'est vraiment très important que les élèves de Seine-Saint-Denis prennent connaissance de ce lieu, de toute son histoire, dans son histoire comme cité HLM, ensuite de son détournement, puis de son retour à la vie d'habitation. Ça me paraît majeur. Et je pense que ce qui se joue là, c'est une possibilité de dire ici et maintenant, c'est vous. Et c'est vous à qui on peut raconter cette histoire, et c'est vous qui pouvez la raconter à votre tour. Et c'est comme ça qu'on le fera dignement.
Est-ce que dans les wagons, il y avait des personnes âgées ?
Il y avait toutes sortes de personnes dans les wagons. Savez-vous quel est l'âge du plus jeune déporté ?
Un mois.
Deux mois.
Deux mois.
Moi, c'était un mois aussi.
Un an.
Un an. Alors, les deux qui ont dit un mois, vous n'êtes pas loin. 14 jours. Jour. Il est né dans le camp et il est parti avec sa maman et ils sont morts. Lorsque, en fin d'année, nous irons avec M. Alich dans un local qui se trouve là en face de vous, au rez-de-chaussée, un local qui appartient à une association qui s'appelle l'AFMA, Association du Fonds de la Mémoire d'Auschwitz. Ce sont des gens qui perpétuent, alors perpétuer ça signifie se rappeler, de gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le local de l'AFMA, au rez-de-chaussée de la cité, en face de mon école, a ouvert en 1996, l'année de ma naissance. Je n'y avais jamais été enfant.
Bonsoir, Alice.
La secrétaire de l'association, Alice Chekroun, me raconte comment ce lieu a accueilli et accueille encore aujourd'hui des enfants pour transmettre la mémoire de la déportation entre les mêmes murs que ceux de l'ancien camp de Drancy.
C'est-à-dire qu'au début, effectivement, nous avions énormément de témoins déportés. Évidemment, depuis, beaucoup sont décédés, d'autres sont âgés, ne peuvent plus beaucoup se déplacer. Donc vraiment, les élèves venaient écouter un déporté. Et on n'a pas arrêté.
Pourquoi les Allemands ont voulu tuer les Juifs ?
Ça servait à quoi de les transporter 3 jours alors qu'après, ils vont mourir ?
Dans le wagon, est-ce qu'on mettait tout type de personnes, des enfants, des femmes, des hommes ?
Comment ils faisaient pour respirer l'air ?
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le minimum, c'était les enfants de 14 jours. Alors quand ils voulaient dormir et manger, ils pleuraient. Alors la gendarmerie, elle faisait quoi ?
Alors c'est très pertinent leur question, parce que comment ils mangeaient ? Comment ils dormaient ? Ça veut dire qu'ils se situaient dans le lieu. Chose qui n'est pas toujours évident pour quelqu'un de se situer dans le lieu. Je trouve ça pertinent parce que ça veut dire qu'ils sont posés dans le lieu, ils se sont dit mais comment ça se passait,
ouais.
Qu'est-ce qu'ils mangeaient, est-ce qu'on leur donnait à manger et comment ils vivaient dans ces endroits horribles, comment ils pouvaient vivre. Moi, on a eu tout type de questions ici. Bon, la question classique c'est est-ce que vous avez vu Hitler ? Ça c'est pour les déportés. Bon. Il y en a qui disent mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs ? Voilà une question très pertinente. Et donc, il y en a, ça foisonne. Ils en ont 50, et je dis, mais c'est pas possible de penser à tout ça. Mais oui, si, ils pensent à tout ça, et c'est super, parce qu'ils nous obligent, nous, à penser à ça, et à répondre à ça, et avoir des détails un peu, et même aux témoins aussi. Enfin, ça les oblige à se replonger dans certaines choses, et à se souvenir de certaines choses. Il y a toujours une pépite, dans chaque classe. Il y en a qui ont posé des questions. Je dis, mais pourquoi il pose des questions comme ça? Puis du coup, le déporté, il avait une réponse, mais très intelligente. Et en fait, une réponse de choses qu'il n'a jamais racontées, finalement. Parce que c'était un détail, mais en fait, qui avait son importance. On a eu des déportés qui venaient, puis des groupes, ils avaient presque besoin de toucher le déporté à la fin. Ils avaient besoin de s'en approcher. Ça, c'était Monsieur Lerrer. Il faisait comme un petit papy, il arrivait de toute façon. Déjà, il les faisait rire. Il leur disait un mot et tout le monde rigolait. Il y avait un lien, c'était... Il était comme un papy, là, à ce moment-là. Il était comme un papy, Monsieur Lerrer. Monsieur Berkover les faisait rire. Il était pétillant. Vous avez besoin de se rapprocher, de venir le voir autour. Vraiment d'un contact physique. Ça me fait quelque chose encore quand j'y repense, parce qu'il y avait un lien qui se créait... Ils ont besoin de garder aussi une trace, une photo, ils ont besoin de garder une trace de se déporter. Donc,
Et tout ça, ça se passait ici, quoi. On est vraiment dans l'endroit où vous avez passé tellement de générations,
c'est
finalement.
C'est important, c'est important. C'est très important de les voir là, dans ce lieu, surtout ceux qui sont partis de Drancy. Et la majorité qui sont venus chez nous sont partis de Drancy. Donc pour eux, c'était quand même particulier. Et puis certains déportés ont du mal, toujours un peu difficile, de se replonger dedans, de ressortir tout ça. Et puis ils commencent, et puis après ça vient.
Ouais.
J'ai une question. Est-ce que, comment ils savaient les soldats, ceux qui enfermaient les Allemands, comment ils savaient qu'ils étaient juifs ?
Ça, c'est une super question. Comment, Denisa ?
Ils le savaient grâce à une étoile qu'il portait et dessus avait marqué juif.
Alors, Lisa, elle avait une question depuis un moment. Elle doit avoir mal au bras.
Les étoiles juives, elles étaient faites en quelle matière
Elles étaient faites en tissu jaune. Et vous aurez l'occasion en fin d'année de voir l'étoile de M. Tinader. Il a encore aujourd'hui son étoile et il vous la montrera.
Monsieur Tinader, il doit être âgé maintenant.
Monsieur Tinader est très âgé.
Mais à quel âge il est parti dans le camp de Drancy ?
Il n'est pas allé dans le camp de Drancy, justement. Myriam vous a dit que c'était un enfant caché. Donc avant que les Allemands ne l'enferme, ne le prenne, eh bien, ses parents ont trouvé est-ce qu'on va appeler ça des amis, des gens, une famille en Normandie, qui a accepté de prendre avec eux M. Tinader. Mais je pense que vous l'entendrez en fin d'année. Je l'espère. Thank you.
Micheline, c'est Myriam. À tout de suite.
C'est-à-dire déjà ma mère a eu sa sœur d'arrêter, qui a été conduite à Nancy, et de là, ma mère a été voir sa sœur pour prendre des affaires pour ses neveux et de prendre des affaires pour sa sœur. Elle a fait un petit colis pour sa sœur, elle est allée à Nancy, le remettre au planton, enfin, ce qui était devant, la de garde. Et l'Allemand, quand il l'a vu, il a pris le colis, il a dit, bien sûr, on va le visionner. Puis il a vu l'étoile, là, cousue à la place du queue. Il dit, mais madame, sauvez-vous, ne revenez pas. Vous voyez, on dit tout. Tout n'est pas tout bleu, tout n'est pas tout rose ou tout noir. Et il m'a fait comprendre qu'elle n'avait rien à faire là.
Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Entrez, merci. Bonjour, Lucien.
Bonjour, madame.
Vous allez bien?
Aussi bien qu'un vieux puisse aller.
Mettez-vous à votre aise. Hein,
merci.
Écoutez. Comment on s'est rencontrés. Je revenais d'Algérie, c'est un autre épisode. Je revenais d'Algérie, mon père. Il me dit, viens, je vais t'emmener dans une mercerie, lingerie, bonneterie, que tu feras leur connaissance, ils sont très gentils. Bon, d'accord. J'arrive là-bas, pour entrer, il y a un berger allemand énorme, couché en travers, enjambé.
Le berger allemand, hein.
Ah oui. Et puis je suis rentré dans le magasin, il y avait...
À la caisse, derrière.
Bon, cette demoiselle, voilà comment on s'est connu, c'est tout bête. Et puis, le fil en aiguille. À se passer la main goutte.
Et c'était dans quelle ville, ça?
Là, Bobigny.
À Bobigny, à l'Abreuvoir, place de l'Europe. Et alors, si on s'est marié au mois de novembre, c'est parce que monsieur qui travaillait déjà dans la couture, il ne pouvait pas se marier avant la moitié du mois de novembre parce qu'il fallait livrer les manteaux.
Oui, c'était ça,
voilà, c'était la vie de à ce moment-là.
Lucien et Micheline Tinader ont tous les deux une histoire familiale liée à Drancy et à la Seine-Saint-Denis. La cité de la Muette tient une place particulière dans leur vie. C'est là-bas qu'ils y ont ouvert le local de l'AFMA, où nous étions avec Alice. Avant ça, ce local a aussi été celui où ils ont exercé leur profession.
D'abord, on faisait des manteaux, des tailleurs, une veste avec la jupe, des pantalons, des robes, mais les robes structurées, ce qu'on appelle nous structurées, dans le prêt-à-porter, on prend des trucs qui flottent. Voilà ce que l'on fabriquait.
Ce qui m'a touché dans leur histoire, c'est comment ils se sont rendus là-bas pour la première fois, comment Lucien s'y est senti.
Quand je suis rentré, ma fille m'a dit, l'aînée, elle avait 12 ans. Elle me dit, mais papa, tu te rends compte où? J'ai dit, oui, je sais où je vais. Mais tu vois, on est toujours là. On ne peut pas nous éliminer comme ça. Ah bon? Voilà. Et c'est là où elle s'est rendue compte.
Et puis, il faut vous dire aussi que politiquement, on ne voulait pas rénover cette cité, on ne voulait pas faire en sorte un lieu de mémoire. Parce qu'à un moment donné, ils ont, alors les gens, quand leur situation s'améliorait, ils s'en allaient, bien sûr, ils allaient ailleurs, bon. Et à un moment donné, ils ont relogé des malades de Villévrard ou de je sais pas où.
Des hôpitaux.
Des hôpitaux psychiatriques, on les a mis à Drancy. Oui, comme ça. Ils étaient sympas d'ailleurs. Enfin, on les connaissait pas tous, mais ils semblaient sympas.
D'ailleurs, il y a un monsieur, on avait fait je sais pas quel travail sur le camp, et je sors, je rencontre. On parle un peu, je dis, mais est-ce que vous êtes conscient du lieu, non, le lieu où vous habitez? Alors il me dit, vous savez, quand j'ai fermé ma porte, c'est un genre comme un autre, c'est quand je sors que les amis me disent, mais est-ce que tu t'en comptes où tu es, que là j'en prends conscience. Quand je suis dans mon appartement, c'est tout, je suis chez moi.
D'accord. Ouais,
c'est... Je vous assure que les gens, c'était une cité comme une autre.
Une cité comme une autre. C'est comme ça que j'essaye d'approcher ce lieu aujourd'hui. En me baladant à la Muette il y a quelques mois, je suis tombée sur des portraits et des textes exposés dans le jardin de la cité. Ces portraits et ces récits nous font découvrir les visages et les vies de certains habitants de la Muette. Ce projet, c'est celui de Christine Boulanger.
Quand je suis venue sur place pour la première fois sur la cité de la Muette, J'ai été assez choquée de m'apercevoir à quel point j'étais complètement ignorante d'un lieu qui était si proche de nous, parce que, enfin, j'essaye de trouver mes mots. J'ai été pour le moins gênée de prendre la mesure de ma propre ignorance sur l'histoire de ce lieu, si tu veux. Et puis au fur et à mesure, parce que j'ai eu des moments où je me suis plongée pendant des soirs, des jours, dans les informations sur l'histoire du lieu. Et je me demandais régulièrement comment j'allais faire pour aller à la rencontre des habitants aujourd'hui sans que mon regard soit complètement déformé par ce que je découvrais. Ça a été compliqué pour moi. Et c'est là que j'ai en fait pris la mesure aussi d'un double évitement avec ce lieu. C'est à la fois aujourd'hui, parce que c'est comme certains quartiers de logements sociaux, un lieu stigmatisé, et aussi du fait de son histoire. Tu vois, c'est tout un pan de l'histoire de mon pays que j'ai découvert à travers ce lieu. Je suis quand même arrivée sur la pointe des pieds sur ce lieu-là. Donc avant même de rencontrer les personnes dans des entretiens individuels pour réaliser leur portrait dessiné raconté, il y a cette réunion qui se passe plutôt mal. Parce que les personnes sont vraiment dans l'attente de travaux qui ne viennent pas du fait de son histoire. C'est un site qui est un peu figé dans le temps. Mais en tout cas, à la limite, peu importe les raisons, mais moi, le jour où je rencontre les habitants, quand j'arrive pour leur expliquer un projet de lien social, pour parler autrement de la cité de la Muette et puis se rencontrer autrement, et puis valoriser les gens qui sont là, raconter la richesse des vies des uns et des autres, alors là, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Enfin, je réalise à quel point les gens sont assez en colère, en fait. Mais ceci dit, assez courtois en même temps, mais ils expriment une frustration, parce qu'il y a une grosse incompréhension sur la raison pour laquelle on se retrouve. Il y a toujours un peu cette question de quoi on va parler? Pourquoi on s'intéresse à nous? Et aussi, comment on va parler de nous? Est-ce que c'est encore sous le prisme de l'histoire des lieux ou habitant d'un logement social? Enfin, tu vois, ni dans un cas ni dans l'autre, on a forcément envie d'être vu par ce prisme-là, en fait. Ça a été le projet le plus long à mettre en place, mais aussi celui qui m'a le plus profondément marqué, je pense. et aussi celui dont il reste une trace, si tu veux, la plus durable, au moins à travers l'exposition qui était prévue juste 3 mois et qui est encore là au bout d'un an et demi. Tu vois. Donc, le jour de l'inauguration a été l'occasion de parler de manière très naturelle de l'histoire de ce lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à Lucien et Micheline Tinader qui sont venus présenter l'exposition qui se trouve dans la Cité de la Muette et dont on n'est pas toujours au courant. Une exposition qu'ils ont installée avec l'association Fonds Mémoire Auschwitz et qui a très bien accueilli ce projet de portrait dessiné et raconté que j'ai proposé dans la Cité de la Muette. Et j'étais heureuse qu'à un moment de l'inauguration, après la lecture à voix haute des portraits, qu'après cette lecture, Lucien puisse à son tour prendre la parole avec toute la douceur qu'on lui connaît sur l'histoire des lieux et expliquer que pour ceux qui le souhaitaient, il y avait une exposition à ce sujet pour en savoir plus. Voilà, donc le lien était fait entre le lieu aujourd'hui, les habitants aujourd'hui et quand même aussi les gens qui sont passés hier. Et j'en étais vraiment très heureuse. Il y a encore un travail à faire pour arrêter d'éviter ce lieu. Et je conçois, en fait aujourd'hui, je conçois tout à fait qu'on puisse continuer de vivre sur un lieu qui a été un lieu avec des choses aussi terribles. Le fait qu'il soit habité, c'est ce qui a contribué à le maintenir aussi, tu vois.
C'est un lieu qui se maintient et qui continue à vivre de façon très ordinaire.
Bonjour. Ça va ?
Bah, je peux rentrer avec vous, je vais leur montrer le coin des livres.
Le mercredi et le samedi, on peut trouver la permanence du Secours Populaire. Là-bas, il y a des vêtements, de la vaisselle, mais aussi Frédéric, qui nous guide à travers ses étagères.
Bon, ben bonjour, bienvenue. Allez-y, rentrez, il fait chaud là-dedans. Voilà. Bonjour. Bonjour. Allez, pour les... Des livres ou des...
Il y a des livres, il y a, de tout. Il y a 4 cartons de livres et il y a d'autres
choses. J'arrive dans une seconde.
Merci, monsieur.
Là, c'est essentiellement l'histoire. On a essayé de faire deux étagères, Deuxième Guerre mondiale, histoire française, bon, là, c'est un peu le bazar, et puis après, monde. Les deux armoires suivantes, c'est romans, vraiment romans tout venant. Au fond, on a mis la jeunesse. Bah, vous pouvez y aller, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a la BD dans la quatrième armoire. Là, c'est la BD avec, on a mis les adultes en haut. Et puis, on descend, plus c'est pour les jeunes.
Après, il y a une partie des livres sur Drancy ou sur...
Oui, là, on a un petit coin riquiqué là, sur tous les livres sur Drancy et 93. Là-haut, dans les caisses, vous avez certains auteurs. Quand on a la chance de voir des lycéens qui viennent nous demander un titre en particulier d'un auteur. Donc on leur descend la caisse, vous voyez, plus ou moins bien indiqué les auteurs.
Pardon. Là, c'est la caisse, vous voyez. La caisse.
Là, on attaque le polar. Policier. Géographie, les guides Michelin et encore un peu de classique. Voilà, à peu près tout. Et puis au milieu, c'est ce qui est arrivé, qu'on n'a pas trié. Après, ça fait moins de 10 ans qu'on est ici, nous. Qu'on a installé cette activité de livre, là. Le Secours Populaire est dans les locaux depuis plus longtemps, lui. Je dirais une vingtaine d'années.
Et est-ce que vous avez vu le lieu un petit peu se transformer? Parce que du coup, ça fait 10 ans que vous...
Depuis 10 ans, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai envie de... Alors, il y a eu des rénovations successives quand même. Il y a les fenêtres qui ont été faites. Alors, je ne vais pas demander aux gens qui habitent ici, mais c'est tout à ma connaissance. Il y a eu des travaux un peu, mais ça reste... Enfin, il n'y a pas très peu de changements. Je crois que le prochain grand changement, c'est le parc qui va être transformé en parking. En partie. La moitié du parc, ouais, c'est vrai. Si, le changement, c'est peut-être l'arrivée des perruches. Vous êtes au courant de l'arrivée des perruches? Vous les connaissez, les perruches? Ouais. Voilà, peut-être.
Je les traque.
Je sais pas quand est-ce qu'elles sont arrivées.
Elles avaient disparu, mais ils ont mis les mangeoires. Elles sont revenues. Hein.
Ouais. Donc, non, après, dans l'habitat. L'habitat est vraiment, je sais pas comment on peut dire, pas insalubre, c'est pas le mot, mais c'est très ancien. C'est très compliqué à rénover. Parce que c'est une passoire thermique, les tuyauteries au sous-sol, là. Tout ce qui est arrivé d'eau, c'est vieux comme le monde et ça n'a jamais été changé. En fait, le coût serait faramineux, j'imagine, donc c'est un peu compliqué.
C'est pourtant un monument historique.
Ouais, mais il n'y a pas d'argent. C'est compliqué, il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent pour rien. Voilà. Donc après, reste débat. Après, je comprends que ce soit compliqué économiquement peut-être de rénover un truc qui n'est pas rénovable. Si ça coûte plus cher en rénovation qu'en construction, à un moment donné, la question se pose. Donc là, ils sont peut-être un peu coincés à cause de ça. Puis ils ne peuvent pas détruire puisque c'est monument historique. Donc je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Injecter beaucoup, beaucoup d'argent pour transformer le lieu en je ne sais pas quoi, en truc culturel avec projection, cinéma, salle de classe, enfin, salle de tout ce que vous voulez, apprentissage de la lecture. Enfin, y a des idées, on en a. Donc quel niveau tu as ?
Celle de...
Est-ce que tu as un dictionnaire déjà, d'anglais ?
Non.
Alors là, ça c'est français-anglais et anglais-français. Donc, d'accord ? Quand tu cherches un mot en anglais, tu regardes. Bicycle, en anglais.
Bicyclette.
Bah voilà, facile en plus, hein, t'as vu l'anglais. Tu sais ce que tu peux faire ? Le dico, je te le donne. Et tu reviens nous voir de temps en autre le samedi matin. Si on voit quelque chose passer, après, on te met de côté. D'accord ?
D'accord.
On fait ça ?
Oui.
À bientôt.
À bientôt. Je
n'aurais pas un sac par là.
Oui, il y en a.
Ça, c'est combien ?
If I slap you, don't allow me to slap you. Are you the same age to drive it?
This one.
I don't drive. Tell me, I say you.
He cannot drive it. You don't want anything. There is nothing like this one. You are older than this. How can you be driving it at your age? 7 years? This is 3 to 2 years.
En sortant du secours populaire, une habitante me propose de me faire visiter son bâtiment.
Ça fait 20 ans que j'avais pris là, mais c'était pas comme ça. C'est dégradé, regardez, monsieur. Comment on va recevoir notre courrier ? Tout est cassé.
Venez voir.
C'est grave. Je paye 500 euros pour manger. 100 euros de charge, regardez.
On dit un bâtiment historique. Ça devrait être résidentiel, fermé. Donc tu habites ici. Ça fait peur. Ça fait peur. On est en France quand même, c'est grave. Elle est abandonnée, cette cité.
En quittant la cité, je passe devant le wagon mémoriel et le monument de Shlomo Seilinger. Il fait froid, je traverse l'avenue Jean Jaurès et je vais prendre un café chez Mazir, au Vouvray, juste en face de la cité.
Mais ouais, j'ai grandi ici. C'est vraiment... Je suis là depuis que je suis tout gamin. Ouais, j'ai pris l'habitude ici. Et il faut savoir aussi que le bar, enfin cet établissement-là, il était aussi lié au camp en face, c'est-à-dire qu'au troisième étage, c'était aussi un hôtel à cette époque-là, au troisième étage, il y avait la femme d'un homme qui était dans ce camp. Et c'était le seul moyen que les gens avaient en fait, de faire passer des courriers en secret à leurs proches qui étaient dans le camp, tout ça.
En discutant avec Mazir, Jonathan, qui travaille dans le magasin juste à côté, se joint à nous.
On a repris la boutique à une dame qui s'appelait Madame Dreux et qui était là pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup pendant l'occupation des Allemands. Et elle vendait des câbles électriques et plusieurs fois elle a fait s'évader des juifs. Elle est cachée dans sa cave la journée quand ils arrivent à s'évader ou même la nuit, le temps que la garde soit moins sur ses gardes, comme on dit, et de les faire passer derrière dans les maraîchers. Elle en a fait passer plusieurs comme ça, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est son fils qui habite là et qui était résistant à 14 ans. D'ailleurs, il est connu pour ça, il est toujours... C'est un de mes clients, de toute façon, donc c'est pour ça que je connais l'histoire, qui me raconte ça et puis qui... Moi, j'étais vachement surpris, en fait. Puis c'est vrai que moi, j'étais au Collège Liberté, donc je passais souvent là. Je passais aussi devant la boutique. Et j'avais pas idée de tout ce qui s'était passé, quoi. De voir le lien entre la rue de ce côté-là et puis de l'autre côté de la rue, les liens qu'il pouvait y avoir, quoi. Et au Collège Liberté, on nous a emmenés ici. Et on a visité le wagon, machin, hein. Et on nous a expliqué ce qui s'était passé et tout. Et à ce moment-là, je me rappelle que deux personnes âgées étaient venues. Et ils étaient tatoués sur le bras. Ils avaient vécu là. Ils s'étaient fait emmener, ils avaient vécu là. Et eux aussi nous avaient raconté un bout. Que c'était très dur, qu'ils étaient des dizaines, voire des quinzaines dans les appartements. Avant, c'était pas des appartements, c'était des prisons. Hein. Des conditions de vie impossibles à s'imaginer maintenant, quoi. c'est l'histoire de mon pays, donc il faut la garder en mémoire. Et puis, ouais, c'est surtout les deux personnes âgées qui m'avaient marqué, en fait. Parce qu'on s'attendait pas à voir ça, en fait. On est jeunes, on est dans les années 2000, c'est passé depuis 100 ans pour nous. Bon, on apprend l'histoire parce qu'on apprend l'histoire. Mais quand ils sont arrivés et qu'ils nous ont montré le tatouage, d'un coup, il y a une ambiance qui s'est installée, on s'est tous tus, et puis on a laissé parler, quoi. Et puis on a écouté. On a écouté bien sagement ces deux personnes qui étaient là. Il y avait un homme et une femme, je crois. C'était un couple. C'était vraiment... Puis bon, bah...
Est-ce que il y avait des juifs qui, avant qu'on vienne taper à leur porte pour les emmener en camp, s'étaient reconvertis?
J'ai dit pourquoi les autres personnes ne dénonçaient des personnes juives.
Du coup, comment ils faisaient pour dormir?
Est-ce que les Allemands ils ont tué tous les juifs qui étaient à Drancy?
Ils les mettent où quand ils sont morts?
À Drancy, par exemple, je sais pas, c'est n'importe quoi, mais à Drancy, par exemple, il y a à peu près 500 bâtiments. Pourquoi avoir choisi celui-là?
Si on veut être, pragmatique, voire cynique, c'est extrêmement pratique à surveiller. C'est déjà fermé, il n'y a plus que le quatrième côté à boucler, à surveiller. Ici, il n'y avait rien derrière. Même moi, quand j'étais petite, c'était des champs. Ici, on allait cueillir des fleurs.
Les parents habitent juste
là. Oui, de l'autre côté, là, c'était des terrains vagues. Et il suffisait de fermer ici la rue Auguste Blanqui, de fermer cette partie-là. Et ça a d'abord servi de camp de prisonniers. Et à partir de 1941... Les Juifs, et en 1942, les Juifs qui ont été raflés, la rafle du Veldiv, ont été essentiellement amenés ici à Drancy.
Je voulais juste ouvrir un petit peu ce numéro. Moi, je ne l'ai jamais vu, celui-ci, sur les écoles de Drancy et sur l'école de la Muette, qui est devenue celle de Joliot-Curie.
Donc, la Muette, on en parle au tout début, voilà.
Françoise Gatti est une ancienne institutrice, et c'est la présidente du Papyrus drancéen. Une association de passionnés d'histoire locale. Ils réunissent et collectionnent tout ce qui permet de garder une trace de ce que Drancy et ses habitants ont été à travers l'histoire.
Ah, il y a des photos. Ah oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Des photos,
là.
Voilà, qui sont dans la cour du camp.
Françoise me raconte comment le projet de la Cité de la Muette, en tant que lieu d'habitation, a pris forme.
Au moment de la guerre, la partie muette ici, le fer à cheval, qui était au départ le même projet, n'était pas terminé. Il y avait seulement le gros œuvre qui était fini. Les appartements n'étaient pas... c'était des grands espaces, quoi. Et là, je vous ai sorti un article de l'Humanité de 1946. De nombreuses personnes ne possèdent pas un logement suffisant et salubre pour y loger leur famille. Certes, les destructions résultant des bombardements et de la guerre ont détruit un grand nombre de locaux d'habitation. On s'est efforcé d'y pallier par suite de la pénurie de matériaux, des moyens de fortune, etc., des baraquements. Il y avait, après la guerre justement, il y a eu des cités d'urgence, c'était des baraquements qui se trouvaient dans la rue Auguste Blanqui, là-bas derrière. Mais l'Humanité dit « Nous pensons que les pouvoirs publics doivent réaliser immédiatement l'aménagement des locaux qui pourraient être rapidement utilisés. C'est ainsi que dans la cité de la Muette, plus de 400 logements pourraient être terminés. Mais jusqu'alors, les discussions entre les différents services publics et les ministères ont arrêté cette réalisation. » Donc 1946, on dit « Dépêchons-nous, il y a plus de 400 logements ». Alors c'est l'époque du baby-boom, les gens se marient, les gens ont envie d'avoir des enfants, etc. Donc la crise du logement a duré un moment. Et l'Humanité ne dit pas « Il faut sanctuariser ce camp en souvenir », elle dit « Il faut rapidement utiliser ces logements et les réhabiliter ». Alors, c'était des petits logements, donc c'était des familles peu nombreuses. Mon mari avait un ami qu'on voit toujours, qui il était fils unique. Et bon, il y avait la chambre des parents
Et lui, il avait un lit armoire, un lit qui se repliait comme ça, et il dormait dans, dans le salon, quoi, parce que ce n'était pas des grands logements, mais c'était des familles tout à fait normales, je dirais, si on peut, si, si y a une normalité.
Oui, oui. Ouais.
Voilà, par exemple, vous avez le plan de, la cité de la Muette, du camp, enfin, on peut dire. Moi, mon mari, était, son père était gendarme mobile, mais il n'était pas là pendant la guerre. Il est arrivé ici en 1950, mon mari. Et il dit, on allait, on disait le camp, même nous, on ne savait pas pourquoi. Personne n'en parlait, personne ne disait ce qui s'était passé.
Parce que du coup, lui, il a vécu dans la gendarmerie
à côté. Oui, il a habité dans la gendarmerie, oui.
Et il allait à l'école
Il allait à l'école. Alors, cette fameuse école au, rez-de-chaussée de la Muette, là, lorsque vous êtes devant le fer à cheval. Est-ce qu'on a une photo là ici, voilà.
Ouais.
Lorsque vous êtes devant le fer à cheval, tout le rez-de-chaussée ici, de ce bâtiment-là, a été transformé en classe. Et les photos qui sont là, on voit les photos de classe, la photo de fin d'année avec la maîtresse et les élèves tout bien rangés, bien peignés et tout, sont prises dans la cour, devant les, dans la cour du... Et même mon mari m'a raconté que les toilettes, évidemment, ça c'était pas prévu pour faire des écoles. Donc les toilettes, si on peut appeler ça, c'était les latrines qui est du camp, des prisonniers, des futurs déportés. Et il me dit, c'était absolument répugnant. Ceux qui avaient la chance de déjeuner chez leurs parents, ils se retenaient toute la matinée, mais autrement, c'était infect. Et il disait, sans se rendre compte bien de ce qu'il disait, il disait, on va dans les chiottes des Juifs. Mais il dit, c'était immonde.
Je sors de mon ancienne école primaire, là où j'aurais voulu découvrir l'histoire de la Muette. Mon enquête n'est pas terminée. Il y a encore à découvrir et à comprendre. Il y a beaucoup de choses à articuler autour de ce lieu pour l'appréhender dans son histoire architecturale, son histoire de la déportation, son histoire de la banlieue. Alors que je suis en pleine finalisation de ce documentaire, je découvre, grâce à Anaïque Lefeuvre, directrice du Mémorial des enfants du Veldiv, quelqu'un qui aurait beaucoup à me dire de la Muette et de la façon dont on peut l'écouter.
Moi, je suis née le 18 juin 52 et je suis née à la maison, comme on le faisait à cette époque, donc littéralement dans ce lieu. Et jamais personne ne m'a dit ce qu'était cet endroit. Il a fallu 20 ans avant que je comprenne ce qu'était l'endroit où j'étais née. Il a fallu que je commence à travailler comme documentariste à France Culture. Et Drancy m'est arrivé dans la figure, si je peux dire, grâce à un ami, Pierre Drachline, qui a édité Maurice Rachfus, qui a écrit sur le camp de Drancy. Et en lisant ce livre, j'ai vu le mot « Cité de la Muette ». J'ai fait le lien avec mon acte de naissance et j'ai réalisé que j'étais née cité de la Muette.
Irène Omelianenko a été documentariste pendant près de 40 ans à France Culture et a beaucoup contribué à la création sonore. Une consoeur de radio, née à Drancy, comme moi. J'avais envie d'entendre quels étaient ses souvenirs de la Muette.
Alors, j'ai des souvenirs par défaut. Par exemple, j'ai une photo de ma grand-mère paternelle qui était venue voir mes parents et qui me promène dans un landau dans la cour. Et quand je regardais cette photo, même après avoir su ce qu'était ce camp, ça reste pour moi peut-être l'incarnation de la force des vivants qui, au-delà de cette néantisation qui avait été mise en place dans ce lieu, ont recréé de la vie, ont redonné de l'amour, ont fait qu'une forme d'espoir puisse circuler. Et de voir cette vieille dame avec une petite robe avec, serrée à la taille, qui pousse ce landau. Et c'est comme un monde doux. J'ai un autre souvenir lié à Drancy. J'étais bébé et il y a eu un incendie dans la chambre de mes parents qui avait un espèce de petit poêle à bois pour se chauffer. Le poêle à bois s'est renversé, le feu a démarré dans la chambre. Maman était commerçante, enfin mes parents étaient commerçants, donc j'étais seule dans cet appartement et mes parents étaient en dessous dans le magasin. Mais j'ai le souvenir de flammes et d'un dessus de lit bleu et blanc. Et ces flammes, pour moi, c'est vraiment, c'est ce qui est lié à Drancy, parce que je pense que c'est vraiment un lieu brûlant, Drancy, c'est le lieu pour nous d'une France collaborationniste. Et c'est aussi une mémoire extrêmement douloureuse que nous devons encore aujourd'hui affronter. Et je pense que Drancy, Drancy brûle encore en moi. Mais je ne peux pas y aller. Là, j'ai physiquement, ça n'est pas possible.
Je veux un monde meilleur, meilleur. Les problèmes, s'ils ne se résolvent jamais seuls, volent ton éclat comme ces papillons d'une nuit où l'histoire fasciste oublie ses noms propres, où les papyrus d'écrits sont comme de grands cahiers ouverts. Oh, je veux un monde meilleur, meilleur, meilleur.
Attends, rappuie sur play, dis-moi.
Je veux un monde meilleur, meilleur.
C'était Écouter la Muette, un documentaire de Myriam Rabat-Konaté, réalisé par David Jacuboviez. Merci à Chloé Corman, Jean-Marc Assayag, Alice Chekroun, Micheline et Lucien Tinader, Christine Boulanger, Françoise Gatti et Irène Omelian-Enco. Merci aux élèves de CM2A de l'école Joliot-Curie, à Drancy, à Samy Amiche, à l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz, au Papyrus Drancéen, au Secours Populaire, à Wassir, Jonathan, Larsen et Anaïg Lefeuvre. Merci aux habitants et aux habitantes de la Cité de la Muette et à mon poteau William Keo. Prise de son, Stéphane Foulon, Jordan Fuentes, Nadège Antonini et Timothée Hubert. Mixage, Delphine Baudet. Coordination, Aurélie Charon et Inès Dupéron.
L'expérience de France Culture. Merci.